Harvard. Ça raconte une forme de brutalité qui vise à orienter, voire à détourner la recherche de sa liberté. Voilà, liberté qu'il faut préserver.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans cette émission qui, en 3 saisons et 5 T dans Télérama, s'est imposée comme le Harvard de la radio. Sus à la fausse modestie, soyons conscients et dignes de ce statut. Zoom Zoom Zen, c'est le temple moderne du gai savoir. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ces mots qui flottent dans l'air du temps. Et aujourd'hui, justement, un mot qui revient souvent dans l'actu ces dernières semaines, un mot synonyme d'excellence, de prestige aussi, de tricherie dans le CV de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, Harvard. C'est peut-être l'université la plus célèbre au monde, oui Quentin, devant l'établissement Marguerite de Navarre à Alençon où vous avez décroché votre BTS négociation relations clients, mention assez bien. Les étudiants qui ont fréquenté ces bancs, c'est vrai que vous étiez majeur de votre promo, j'avais oublié ce détail. Les étudiants qui ont fréquenté ces bancs à Harvard deviennent rarement représentants de commerce pour les cafés Richard, plutôt entrepreneurs milliardaires dans la tech ou président des États-Unis pour les plus nuls. Sauf que rien ne va plus à Harvard depuis que Donald Trump a déclaré la guerre au célèbre établissement. Critiques acerbes, coupes budgétaires et maintenant carrément la menace d'une interdiction des étudiants étrangers. Pourquoi tant de haine? Est-ce simplement la revanche d'un cancre? La recherche américaine est-elle en péril? Une des raisons avancées par le président américain pour expliquer son offensive contre Harvard est que son campus serait devenu un bastion wokiste, ce que confirme Cyril Lacarrière, viré d'Harvard en 2006 à la suite d'un différend avec deux profs hippies à qui il avait demandé, je cite, de s'épiler les aisselles, selon Cyril, à cause tout simplement de son niveau insuffisant en anglais, selon la direction.
Why are you people having so little sex?
Je vous laisse vous faire votre idée. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Sylvie Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Sylvie, vous êtes historienne, spécialiste des États-Unis. Vous avez longtemps été chercheuse associée aux universités de Harvard et Stanford. Vous enseignez maintenant à Sciences Po. Vous avez sorti le mois dernier aux éditions du Seuil la contre-révolution californienne consacrée aux liens entre l'extrême droite et les patrons de la tech, des liens qui remontent à loin, on le découvre là-dedans. Mais si on vous invite aujourd'hui, c'est pour nous parler des universités dans le viseur de Trump et en particulier donc de la plus emblématique d'entre elles, Harvard. Juste le temps de vous présenter 2 élèves extrêmement studieux. 2 disciples qui écoutent leur maître, vénèrent leur maître et surtout chaque jour apprennent énormément aux côtés de leur maître. Effectivement, qui d'autre, Quentin?
Je sais pas.
Bah, Cyril.
Ouais.
D'accord, ok, donc c'est moins 3 au quiz pour vous.
J'en demande pas tant.
Par exemple, avant-hier,
la carrière suffit.
Par exemple, avant-hier, j'ai senti que Manon ne savait pas qu'une célèbre actrice X s'était reconvertie chanteuse et qu'elle était, qui plus est, en playlist sur France Inter. Juste après, Sasha Gray. Shadowman. C'était grillé assez rapidement.
Vous la connaissiez pas?
Je ne la connaissais pas. Manon Mariani, quant à lui, comment avez-vous pu vivre sans me connaître? C'est la question que vous vous posez chaque matin. Et tout de suite après, Manon, l'autre question, c'est mais qui est donc l'autre personne à suivre du jour?
Eh bah, Donald Trump veut supprimer son ministère de l'éducation, mais en attendant, il y a bien une personne qui est encore à sa tête, une femme qui n'aime pas beaucoup Harvard, elle non plus.
Face à vous, Sylvie Laurent, la vie est injuste, car s'il avait étudié à Harvard plutôt qu'à Alençon, Quentin ne serait pas en une de l'Orne Hebdo, mais en une du Times. L'homme de l'année 2025 poserait fièrement avec la création qui lui a permis, à la Lui Incorporated, de devenir la 6e licorne française après Mistal et Doctolib, Loucigalou, la tasse qui fait le bruit des cigales quand on boit. Hélas, Harvard n'acceptant pas les règlements en cash, Quentin n'avait pas pu s'inscrire, ce qui ne l'a pas empêché de devenir responsable des micro-trottoirs de Zoom Zoom Land, ce qui est pas mal finalement.
Ce qui prend du temps aussi.
Ça prend du temps finalement dans la journée.
Responsable.
Alors, oui, j'aime bien ce titre de responsable.
On dirait qu'il a un petit bureau.
Mais je suis sûr qu'il a ça sous sa carte de visite.
Oui.
Quentin, dans la rue, ça leur évoque quoi aux gens Harvard?
Un mouvement de résistance, un mouvement citoyen, et comme je n'ai pas pu être dépêché sur place faute de moyens. Puis je voulais pas tomber dans ce qui aurait été qualifié d'aller-retour de la honte. Nous irons donc sur le sol français parler de la grande et vieille université.
Vers 16h30, nous verrons que si Harvard a pondu moult présidents, chefs d'État et autres prix Nobel, il n'y a pas eu que des champions à sortir de la prestigieuse université. Étudiants studieux, mais un peu serial killer sur les bords, profs compétents, mais un peu nécrophiles, le Zoom Zoom Test sera consacré au côté obscur de Harvard. Juste avant 17h, nous retrouverons la plus diplômée de nos humoristes, Camille Lorente. Après 17h, Quentin s'équipera de boules qui et boudra prostré dans un coin du studio en position fœtale, puisqu'on zoomera sur un mot dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, et c'est normal, c'est le dernier jour pour remplir votre déclaration, on zoomera sur les impôts, avec l'économiste le plus rock'n'roll de France, Eric Ayer.
C'est pas exactement le dernier.
48 heures.
C'est demain.
Oui, vous êtes à l'heure près, vous. Hein,
Cyril, il l'a fait J1, donc bon.
Cyril, c'est vrai. Flippé
il
comme
adore
jamais.
Ça.
Ah non, moi j'aime bien le moment de déclaration.
Anticipé. Et alors le résultat, vous êtes content?
Bof.
Très bien, bof. Mais d'abord, avant de parler des impôts, décontractons-nous en parlant d'Harvard. Sylvie Laurent, qu'est-ce que ça représente déjà Harvard aux États-Unis ?
Alors, d'une certaine façon, ça représente quelque chose comme une aristocratie américaine. C'est-à-dire que accéder à Harvard, ça veut dire la promesse d'une ascension sociale, d'une réussite matérielle et intellectuelle. Harvard, ça se trouve dans la banlieue de Boston, un petit patelin qui s'appelle Cambridge. Et l'élite de Boston, au 19e siècle, on les appelait les Brahmines, par évocation à la caste des prêtres.
Brahmanes.
Les Brahmines, les castes en Inde, c'est la caste supérieure. Et donc, pour un pays qui se veut très méritocratique, très républicain et très anti-hiérarchie sociale, il y a cette espèce de petit frisson européen dans le fait de se dire que lorsqu'on envoie son enfant à Harvard ou que l'on est soi-même admis à Harvard, on peut dire qu'on a réussi sa vie.
Un peu comme une petite particule pour eux.
Exactement.
Il est encore sur son petit nuage. Hier, lundi 2 juin 2025, après pourtant plus de 500 chroniques dans cette émission, il est enfin tombé sur un fan du 12 ça sort. Un mail qui commençait par ces mots. Merci Cyril pour votre douce assort que j'ai découvert dans le 5-7 de France Inter. Car oui, amis férus de Gai Savoir, sachez que pour une raison éditoriale que personne n'a jamais été en mesure d'expliquer, le douce assort est rediffusé le matin dans le 5-7 d'Inter. Totalement hors contexte et sans aucun montage. C'est-à-dire donc avec les vannes sur la Marianoche, par exemple, ce qui doit laisser perplexes les auditeurs.
Mais l'auditeur adore ça.
Mais pas ce fan de Cyril, un certain Raphaël Gerson, qui, renseignement pris, est en fait lui-même chroniqueur dans le 5-7. Ceci expliquant peut-être cela. Bref, Cyril, en attendant votre premier fan, en attendant de découvrir votre premier fan extérieur à France Inter,
votre épouse,
eh bien, c'est vrai. Racontez-nous Harvard, d'où ça sort.
Harvard se présente comme la plus vieille université américaine. Alors non seulement c'est vrai, mais en plus c'est même l'université qui est née avant qu'il y ait des Américains. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, l'État du Massachusetts est une colonie britannique, et c'est donc à la perfide Albion qu'on doit la création de Harvard. Le 28 octobre 1636, la Great and General Court de la colonie de la baie du Massachusetts approuve l'allocation de 400 livres sterling pour la création d'un collège destiné à l'éducation supérieure. Un an plus tard, l'école est installée dans la ville de Newtown, rebaptisée Cambridge en 1638, en hommage à l'université anglaise qui porte déjà ce nom. La même année, c'est l'arrivée du Messie. John Harvard, un pasteur anglais, protestant, puritain et philanthrope, décide de léguer à l'école la moitié de sa fortune, soit environ 750 livres. C'est pas beaucoup aujourd'hui, mais je vous rappelle qu'on est au milieu du 17e, et donc, évidemment, ça représente une somme considérable. Harvard fait aussi don de sa bibliothèque personnelle, et ça représente 400 livres.
Et c'est comme ça, Cyril ?
C'est comme ça que l'école devient officiellement le Harvard College en 1639. Un an plus tard, elle a son premier président, Henry Dunster, et bientôt sa première promotion de 9 élèves seulement, nous sommes en 1642. Mais à l'époque, Harvard n'est pas encore l'école des élites et du pouvoir. L'ambition de ceux qui l'ont créée, c'est de former des ministres du culte puritain, des pasteurs et des fonctionnaires coloniaux. Il faudra en fait attendre le 20e siècle pour que Harvard devienne une usine à fabriquer des présidents, des Nobel et des entrepreneurs milliardaires, à fabriquer une sorte de confrérie consanguine également. Car Harvard, ça se paye 60 000 dollars l'année. Pour Mathieu, ce n'est qu'une montre, mais pour le commun des mortels, c'est inaccessible. Alors, pourquoi cette université est-elle devenue la cible de Donald Trump ? Est-ce qu'elle est toujours aussi prestigieuse ? Qui y enseigne ? Qui y accède ? Harvard peut-elle fermer ses portes à cause de Trump ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Beaucoup de questions.
Oui,
le retour des questions.
On en a pour notre argent dans ce douce assort. Je crois que votre fan, Raphaël Gerson, doit être...
J'embrasse Raphaël.
Il doit être très content. Merci Cyril. Sylvian, déjà, est-ce que Harvard est toujours aujourd'hui la plus prestigieuse université au monde ?
Oui, elle est toujours l'université la plus prestigieuse au monde, mais c'est pas quelque chose qui est comme ça complètement arbitraire. Il y a des classements qui sont établis. Alors, les classements des universités sont établis selon des critères qui sont parfaitement discutables, mais toujours est-il qu'ils existent et que entre Harvard et Stanford, ça se joue un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, mais enfin sur le long terme, c'est plutôt Harvard qui, par le nombre de prix Nobel produits, le nombre de bourses, de reconnaissances, de prix divers et variés, et de loin la principale institution de production de savoir et de connaissances aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde. Et c'est pour ça que non seulement les élites américaines, mais les élites du monde entier, de la Chine à l'Amérique latine, de la Russie à l'Europe, cherchent à envoyer leurs enfants à Harvard.
Alors au départ, c'était extrêmement élitiste de par le recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui a une chance de rentrer à Harvard s'il est extrêmement doué ou qu'il a des capacités prodigieuses pour les études, ou il faut être issu déjà du Sérail, il faut déjà avoir des parents qui sont passés par Harvard, ou avoir tout simplement des moyens colossaux. Il n'y a pas de bourse ou il y a des bourses ?
Il y a des bourses. Ouais. Alors oui, bien sûr, c'est une institution d'élite. Le taux d'admission, c'est à peu près 4% de ceux qui présentent un dossier.
Ah oui, donc sachant ça reste qu'évidemment, hyper sélectif, quoi.
C'est l'équivalent d'une agrégation en France, okay. À peu près, le niveau d'admission. Ah, oui. En sachant bien sûr que tout le monde ne présente pas un dossier. C'est-à-dire que quand vous savez que vous n'avez aucune chance, vous ne présentez même pas le dossier.
D'accord.
Donc les 4%, c'est vraiment sur ceux qui se pensent capables. Ensuite, les prix sont sensiblement supérieurs à ce que vous avez dit. On est aujourd'hui à 80 000 dollars par an pour Harvard.
L'inflation,
Tout compris, c'est-à-dire avec le logement, les livres, les différents paiements d'assurance que vous devez faire. C'est avec Columbia l'université la plus chère des États-Unis. Alors, la moitié des étudiants d'Harvard ont des bourses. Mmh. Ou, disons qu'ils payent ce qu'on appelle les tuitions, c'est-à-dire les frais d'inscription au prorata du revenu de leurs parents. Mmh. Donc, pour les 20% d'étudiants dont les parents viennent de milieux très très populaires, vous pouvez ne pas payer du tout de frais d'inscription.
Il y a des étudiants qui sont là-bas.
C'est ce qui fait qu'il y a encore, pour les étudiants, bien sûr, qui sont les plus brillants, qui sont dans le top 3% de leur classe quand ils sont au lycée, une petite chance d'accéder à Harvard. Mais la méritocratie, évidemment, est très, très largement limitée par le fait que si votre papa et votre grand-papa a été diplômé d'Harvard, vous êtes un legacy student, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que vous entrez assez facilement à l'école.
Il y a un passe-droit si votre papa...
15% des étudiants d'Harvard aujourd'hui sont admis à Harvard parce que...
Peu importe leur note.
Bon, alors, il faut éviter d'être vraiment très, très nul. George W. Bush, par exemple, était à Harvard.
Ah oui.
On sait que c'était pas un aigle, voilà.
C'était pas un aigle. Ça, je vous laisse la responsabilité de ces propos-là, mais je l'aurais dit pareil.
Zim, zim, zim. Mathieu Noël sur France Inter.
Une référence académique pour les uns, un repère de gauchias. Pour Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef filloniste, zoom cet après-midi sur l'université d'Harvard. L'historienne spécialiste des États-Unis Sylvie Laurent est avec nous. Je rappelle au passage votre livre passionnant, La contre-révolution californienne. Sylvie, si on a décidé de parler d'Harvard aujourd'hui, c'est parce que Trump a mis un terme aux subventions fédérales et met la pression sur cette université pour avoir un droit de regard sur le recrutement des étudiants étrangers et des professeurs. Pourquoi cette focalisation en particulier sur Harvard ?
Un petit peu pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Harvard, c'est devenu l'espèce de métaphore de ce qu'est l'élitisme. Et le grand combat de la droite américaine depuis des années, en particulier à mesure que les milliardaires du pays se rassemblent derrière l'extrême droite américaine au pouvoir aujourd'hui, c'est de raconter l'histoire selon laquelle la véritable élite, ça n'est pas celle qui a le capital, ça n'est pas celle qui est faite des milliardaires, que la véritable élite, celle qui opprime, qui oppresse, c'est l'élite intellectuelle. Cette espèce de tour de passe-passe qui consiste à dire qu'il n'y a rien de pire qu'un prof d'université alors qu'un banquier de Wall Street ou un patron de la tech, c'est extraordinaire parce que ça crée de la richesse. Il y a cette espèce de guerre culturelle qui brandit l'université comme le lieu de toutes les valeurs qui mènent l'Amérique à sa déperdition. Et il y a une histoire au sein de la droite américaine de ça. Le père, d'une certaine façon, de la nouvelle droite dans les années 50, qui s'appelait William Buckley, était diplômé de Yale et il a fait un ouvrage qui s'appelait Yale et l'homme, l'histoire d'une superstition et de la liberté de parole, où il dit il n'y a rien de pire que Yale parce que quand on y va, on apprend la sécularisation, on apprend l'humanité et le keynésianisme et on oublie le christianisme et on oublie le capitalisme. Donc vous voyez déjà, il y avait déjà une petite idée selon laquelle trop d'éducation pose problème parce qu'on perd ses valeurs. Mais le grand moment où la droite comprend qu'il y a un coup à jouer dans cette espèce de posture contre l'université, c'est Ronald Reagan dans les années 80, et c'est la contre-révolution californienne dont je parle dans le livre. C'est Reagan, élu en 66 pour la première fois gouverneur de Californie, qui fait de sa guerre contre l'université de Berkeley la raison pour laquelle il sera élu. Pourquoi ? Parce que Berkeley, à ce moment-là, c'est le lieu de la contestation contre la guerre du Vietnam, les massacres au Cambodge, le mouvement des Black Panthers qui est en train de se développer aussi en Californie. Et donc, il se présente comme celui qui va lutter contre la chienlit de Berkeley, celui qui va remettre de l'ordre. Et il ne se paye pas de mots puisqu'il envoie l'armée, il y a un mort et qu'il ferme tous les campus. Et il est réélu une deuxième fois en 1970 avec son conseiller à l'éducation qui s'appelle Roger Freeman, qui dit « ça suffit de former un prolétariat éduqué, on ne fait que des marxistes sur ces campus ». Et commence avec Reagan la privatisation des universités publiques de Californie. Berkeley, c'était les meilleures universités du pays. À partir de ce moment-là, tout le monde doit payer pour montrer qu'il mérite. Mmh. Et toute parole disruptive de protestation, de contestation contre la guerre, le racisme, le sexisme et toutes ces choses insupportables et puni immédiatement.
L'histoire se répète avec Trump.
Alors il a compris, c'est vraiment le scénario, c'est le script de la droite. Pour apparaître comme un homme du peuple, il faut s'opposer à l'université, en sachant qu'il y a un point sur lequel ils ont une prise, c'est qu'aujourd'hui, payer pour l'université, c'est monstrueusement cher. 80 000 dollars par an, c'est plus que le salaire médian d'une famille américaine. Et ils ont doublé leurs frais d'inscription depuis 2004. Depuis 20 ans, ça a doublé. C'est-à-dire, c'est une opération de production de savoir par l'argent. Donc évidemment que la classe moyenne américaine qui voit son revenu s'effondrer est extrêmement pleine de ressentiment vis-à-vis de ce système.
Et face à lui, il faut en parler, il y a le président de Harvard, Alan Garber. Et, qui est-il et pourquoi il tient tête à Donald Trump ?
Alors entre nous, il tient tête modérément. Ah. C'est-à-dire que la première chose qu'il a faite, c'est de renvoyer les deux directeurs du Centre des études du Moyen-Orient. Ensuite, d'interdire les politiques de diversité, égalité, inclusion, qui sont grosso modo les politiques antiracistes et antisexistes qui étaient installées là, comme dans plein d'institutions. Et ensuite, le jour des fêtes de fin d'année, d'interdire aux groupes d'étudiants qui étaient affiliés à des groupes qui revendiquaient une certaine identité, de manifester. Donc il a commencé, d'une certaine façon, à essayer de négocier pour finalement, parce que ça allait tellement loin les revendications, par dire non. Pourquoi ? Parce qu'il en va de la pérennité de cette institution, c'est-à-dire que personne à Harvard, ni les donateurs, ni les étudiants, ni le corps enseignant ne veut apparaître comme Columbia, c'est-à-dire comme une université qui se soumet, qui accepte le diktat du prince et qui perd ce qui fait son prestige, c'est-à-dire la capacité à résister à l'obscurantisme et au refus de la science et du savoir.
Lui, il avait tout pour intégrer Harvard. La vivacité d'esprit, la niaque, le relationnel aussi. Il ne lui manquait qu'une chose, l'anglais. Forcément, dès le début de l'entretien, ça a coincé. Il s'est pris les pieds dans le tapis. The feet in the carpet.
Extremely large. Oui, parce qu'il y a un Y. Il y a un Y à la fin.
Quentin, ce n'est que partie remise. Un jour, vous enseignerez à Harvard et vous ouvrirez la première chaire de micro-trottoir au monde. En attendant, racontez-nous, les passants que vous avez croisés, ça leur évoque quoi, Harvard ?
Eh bien, j'observe ma première rencontre arrivée au loin, non pas avec un extremely large télescope, mais avec des jumelles, ce qui peut faire peur, parfois, je le reconnais, mais c'est comme ça que j'opère. Je vois ce jeune homme qui porte une chemise blanche rentrée dans son pantalon bleu, des chaussures chic, des lunettes de soleil marron clair. À votre avis, pourquoi ici, à Zoom Zoom Zen, on parle de...
Harvard ? Oui, parce que Trump, il cherche à leur couper l'herbe sous le pied. Il leur coupe leur financement, tout ça, surtout avec les étudiants étrangers. Il y a des rumeurs qui racontent que c'est parce que son fils n'aurait pas été accepté là-bas. Bon, je pense que c'est pour plaisanter, mais c'est pour ça qu'on en parle, en tout cas.
Tu penses qu'il y aurait une rancœur trumpienne là-dessus ?
Ah, peut-être, bon, en tout cas, ça fait toujours rire, ce genre de théorie.
Alors, est-ce qu'un conflit d'ego venu de sa vie privée aurait eu pour conséquence de s'attaquer à la plus vieille et à la plus emblématique des universités des États-Unis ? J'arrête maintenant ce monsieur qui sort d'un rendez-vous. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Amaury.
Vous avez quel âge, Amaury ?
51 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Avocat.
Avocat ?
Avocat.
Spécialisé ?
Non. En général, contentieux.
Alors, qu'est-ce que raconte le mot du jour que je lui fais lire au beau milieu de la rue ?
Harvard. Ça raconte... pas forcément toute l'époque, puisque ça se passe aux États-Unis et dans un contexte spécial, donc il faut replacer les choses. Mais dans ce contexte-là, de l'administration Trump débutante en 2025, ça raconte une forme de brutalité qui vise à orienter, voire à détourner la recherche de sa liberté. Voilà, liberté qu'il faut... préservé.
Lui, c'est évidemment le fait qu'on touche au droit d'accueillir des étudiants étrangers qui le touchent.
En tant que père d'étudiant, je suis très et ancien étudiant qui suis parti étudier à l'étranger, je suis très attaché effectivement à ces échanges dans des universités étrangères. Cette faculté d'aller étudier à l'étranger, notamment à Harvard, est remise en cause. C'est dangereux, évidemment, c'est tout à fait préjudiciable.
Vous avez étudié où, vous ?
Moi, j'ai étudié aux Pays-Bas, dans le cadre du programme Erasmus.
Erasmus, un programme qui existe encore en Europe, bien que des décisions politiques aient parfois eu des conséquences. Le Brexit, par exemple, le Royaume-Uni ne fait plus partie du programme Erasmus depuis. Lui marche les mains dans le dos, il a une bonne tête, c'est pour ça que je décide de le suivre. Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Dominique.
Dominique, vous avez quel âge, vous ?
Oh là là, mon Dieu, si vous voulez, j'arrive à les 79.
Vous passez sur France Inter.
Oh, bah, je suis bien content.
C'est une bonne nouvelle ou pas ?
Bon, pourquoi pas.
Bon alors, pourquoi pas. A-t-il vu passer l'actualité autour de...
Harvard.
Pourquoi on parle des étudiants?
Parce qu'il y a M. Trump qui commence à rouer dans les brancards au niveau des étrangers à Harvard, justement, entre autres.
Quel regard vous portez là-dessus, vous?
Ah ben moi, c'est très simple. Hein. Je suis très très clair là-dessus, je trouve ça très dommage. Je trouve que la jeunesse de tous les pays, c'est une très bonne chose. Qu'on soit de confession, de n'importe quelle confession, de n'importe quelle couleur, il est important que les gens puissent justement se rencontrer.
Je lui demande à quel point il est important de se mobiliser. C'est ce que font les étudiants.
C'est un rôle citoyen. Qu'on ait 79 ans comme moi ou qu'on ait 20 ans, 15 ans, 30 ans, il faut avoir des opinions civiques et puis les exprimer, mais les exprimer pas comme ils l'ont exprimé hier et avant-hier après la victoire de Paris Saint-Germain. Voilà, il y a une façon et façon de s'exprimer.
Oui, mais bah, Harvard, là, c'est pas que c'est pacifique, mais en tout cas...
Il se mobilise, et c'est très bien. Et c'est très bien que tous les étudiants se mobilisent de n'importe quel bord, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle couleur.
Vous avez été étudiant, vous?
J'ai été étudiant, oui, absolument.
Où ça?
À Nanterre, en 68. Ça vous dit quelque chose comme période?
Vous y étiez?
En 68, à Nanterre.
Mai 68.
Et en histoire de l'art, donc c'est vous dire.
Mai 68, le symbole de la mobilisation des universités en France qui a déclenché un mouvement inédit et jamais réitéré depuis. Oui, l'université est un lieu de contre-pouvoir à ne pas négliger. Ma dernière rencontre reconnaît mon micro France Inter autant que je la reconnais elle, avec son carré blond bien droit, ses yeux bleus rieurs. Bonjour, bonjour.
Bonjour, oui.
Ah, mais c'est de la radio, faut vous présenter du coup.
Ah bon? Ben, je suis une amie de Mathieu.
Comment vous appelez?
Isabelle.
Isabelle comment?
Oh, ça c'est secret. Vous l'embrassez pour moi?
Ah bah évidemment, c'est Isabelle Nanty que je rencontre par hasard et qui aime visiblement beaucoup Mathieu, pourquoi pas.
Mais c'est réciproque.
Je lui rappelle qu'elle est la bienvenue dans l'émission quand elle le souhaite. Je lui parle du mot du jour, Harvard.
Ben ouais, écoute.
Qu'est-ce qu'on dit de ces étudiants?
Rien,
des étudiants
rien.
Qui se mobilisent.
Hein?
Est-ce que les étudiants sont le dernier rempart à Trump?
Ah bah ouais. Bah bien sûr. De toute façon, le savoir est le dernier rempart à quiconque s'oppose à la démocratie.
Alors non, je ne suis pas allé à Harvard, mais j'ai croisé Isabelle Nanty dans son quartier, et rien que pour ces mots, ça valait bien le détour par la rue.
Isabelle Nanty qui sera bientôt dans Zoom Zoom Zen, certainement.
On l'espère,
évidemment. Sylvie Laurent, on revient sur Harvard et sur Trump. Cette idée d'interdire à l'université d'accueillir des étudiants étrangers, elle est centrale, parce que les étudiants étrangers représentent plus d'un quart de l'ensemble des étudiants d'Harvard. Pour quelle raison il prend cette décision, Trump? Pourquoi il veut ça?
Parce qu'il essaye de raconter depuis le début que les étudiants étrangers sont la source du désordre sur les campus depuis le 7 octobre. Là aussi, on retrouve des précédents chez Reagan. C'est une façon de dire ce sont les étrangers, ce sont les contestataires, ce sont eux qui viennent mettre le désordre dans nos bonnes universités. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'accusation d'antisémitisme a été l'espèce de prétexte général. Et puis ensuite, on a utilisé cette arme. En plus, il avait le moyen d'agir sur les étudiants étrangers parce que c'est le département d'État des services d'immigration qui donne l'autorisation à Harvard d'avoir des étudiants étrangers. Mais la petite musique consiste à dire que, regardez, ces étudiants qui viennent de l'étranger viennent aux États-Unis, on est bien gentils, on les accepte, et il crée le dissensus.
Dominique, qui fait le parallèle avec mai 68, ouais. Je vous ai vu réagir, c'est un contre-pouvoir, les universités, on peut faire front face à un Trump quand on est à Harvard? Est-ce qu'ils le font vraiment? Est-ce qu'on les entend, les étudiants d'Harvard?
Pour l'instant, c'est compliqué. Les étudiants, ils sont soumis, il faut savoir, hein, depuis un an et demi, à une répression absolument terrible sur tous les campus où il y a eu des très grandes mobilisations. Hein, la raison pour laquelle les choses se sont un petit peu calmées là, même si ça reprend en fin d'année, c'est que l'ensemble des universités a pris une posture extrêmement dure sur les mobilisations étudiantes, qui sont formellement interdites. Hein, plus de tentes, plus de protestations, plus de pancartes, plus de chansons, etc. Donc ça devient compliqué. Aujourd'hui, certainement, il y a une nécessaire résistance, mais qui doit venir de l'institution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que fait Trump, c'est pas que les étudiants étrangers, c'est il a bloqué des centaines de millions de dollars de financement pour la recherche, qui en général était donnée à ces universités, puisque c'est là qu'il y a les meilleurs chercheurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scientifiques américains qui sont les meilleurs du monde, les climatologues, les médecins, les psychiatres, les sciences de l'ingénieur, etc., aujourd'hui n'ont plus d'argent, et que donc c'est l'institution qui doit dire que ce que fait Trump, c'est une guerre à la science.
Est-ce que Trump, aujourd'hui, a le pouvoir de faire fermer Harvard ?
Non, il n'a pas le pouvoir de faire fermer Harvard, de même qu'il n'a pas le pouvoir de révoquer le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il lui faudrait un accord du Congrès. Par ailleurs, la chance d'Harvard, c'est que c'est une institution privée. Donc le pouvoir d'État, mais il peut lui faire la vie difficile.
Oui,
il peut certainement, et puis surtout cette espèce de petite musique selon laquelle Harvard, c'est l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi de l'État, lui servira certainement très longtemps pour se faire valoir lui comme un véritable Américain, un bon patriote.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Dans ses vœux Parcoursup, Manon avait mis en premier choix Harvard, Quentin, Princeton. 15 ans plus tard, après des années d'études placées sous le signe de l'échec et de travail placé sous le signe de France Bleu et du Move, les voilà face à face dans le seul examen qu'ils puissent encore rêver de décrocher, le Zoom Zoom Test. Oui. Probablement une des séquences les plus cruelles de cette émission, avec bien sûr le doux assort quand un invité un peu trop tatillon se permet d'humilier notre rédacteur en chef bien-aimé.
Est-ce que je peux simplement revenir sur ce qu'a dit Cyril?
Oui, bien sûr.
Parce que c'est pas tout à fait juste.
Alors, où on se parle, violent. Cyril est d'ailleurs toujours en réanimation, on l'embrasse. Mais oui, sans verser dans l'humiliation que seul un doux assesseur moyennement bien préparé peut procurer, le Zoom Zoom Test n'est jamais un moment facile. La preuve avec ce quiz sur les alumni d'Harvard, donc les anciens élèves d'Harvard les plus célèbres. La liste est longue puisque Natalie Portman, Barack Obama, Mark Zuckerberg, Matt Damon sont tous passés par Harvard. Même le président Jacques Chirac a fréquenté les bancs de la session d'été de la Harvard Business School en 1953. C'est en tout cas ce qu'il dit dans ses mémoires, dont Cyril a un exemple père dédicacé à Cédric Labarrière en toute amitié. Mais hélas, Harvard n'a pas fabriqué que des winners. Commençons tout en douceur avec Abraham Loeb, qui n'est pas Quentin, le frère de Sébastien.
Ah, dommage.
Professeur d'astronomie, astrophysicien, directeur de l'Institut de théorie et de calcul d'Harvard et membre de l'Académie américaine des arts et sciences depuis 2012, Abraham n'est a priori pas un tocard. Sauf qu'on lui doit quand même quelques découvertes assez surprenantes, comme l'existence d'êtres intelligents extraterrestres cachés sous la Terre, des vaisseaux extraterrestres qui pourraient entrer et sortir de la Terre en passant par les volcans, ou des traces de bonne foi dans l'ADN de Pierre Courade.
B.
Alors ce sera passé, c'est sûr.
A. Ouais, dans ça.
A.
Moi j'ai B, les volcans, c'est marrant.
Les volcans, mais ça m'étonnerait qu'on...
Mais là, elle est marrante aussi.
La A, moi je prends la A.
Mais c'était les réponses A et B. Ah. Eh oui, vous avez les réponses A et B.
Mais
oui.
ça devrait compter comme une bonne réponse commune.
Demi
un point
réponse,
chacun, oui.
N'importe quoi, mais c'est pas un jeu coopératif ici. C'est la guerre, c'est la guerre. Selon Abraham Loeb, les extraterrestres sont parmi nous, ou plutôt en dessous de nous, on regardait pas au bon endroit, mais ne nous moquons pas car il y a quand même statistiquement plus de chances qu'une soucoupe volante sorte un jour d'un volcan qu'une parole de bonne foi sorte de la bouche de Pierre Courade. Mais attention, top! Notre prochain pensionnaire d'Harvard est un des criminels les plus célèbres des États-Unis. Surdoué, il entre à Harvard à l'âge de 16 ans où il se prête à des expérimentations controversées du département de psychologie, obtient son doctorat en mathématiques et commence à enseigner à Columbia avant de faire un petit bilan de compétences et de bifurquer, comme on dit, en devenant Ted Bundy, le Lady Killer, Ted Kaczynski, dit Una Bomber, ou Ted Spontex, dit le tueur à l'éponge.
Ah! Je suis devant.
Non.
Vous êtes peut-être devant, mais comme c'est pas la bonne réponse.
C'est.
Donc pour vous, c'est Ted Spontex, le célèbre serial killer Ted Spontex. C'était évidemment la réponse B, le tristement célèbre Una Bomber que le FBI avait traqué en vain pendant 7 ans parce que, je cite l'agent chargé de le capturer, il attaquait toujours au moment du goûter. Était un ancien de Harvard. Oui, vous me direz, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, il n'y a plus ce genre de profil à Harvard. Non ? Vous êtes sûr ? Laissez-moi vous présenter Cedric Lodge, dont le procès vient tout juste de s'ouvrir il y a à peine une semaine, c'est dire la réactivité de ce quiz. Cedric Lodge, c'est l'ancien chef de service du département médecine d'Harvard. Et d'après vous, mis devant le fait accompli, qu'a-t-il fini par avouer ? Qu'il avait diffusé des vidéos d'autopsie de cadavres sur son compte OnlyFans ? Qu'il avait diffusé des vidéos d'autopsie de cadavres en cross-post avec le compte OnlyFans d'Alicia Vulot, la réalisatrice de Zoom Zoom Zen ? Ou qu'il avait revendu sur le Darknet des restes humains pour arrondir ses fins de mois ?
C'est génial. A et C. Moi, je vais dire A et C.
Oui, et vous vous plantez, c'est une bonne réponse de Manon. Effectivement, juste la réponse, c'est une monstruosité à la fois. Une monstruosité d'ailleurs, dit l'humaniste. Une bonne idée business, se dit Quentin, lui. Oh. Puisqu'effectivement, Cédric Lodge utilisait sa position de chef du département médecine d'Harvard pour vendre des restes humains. Avec sa femme, ils auraient ainsi vendu en ligne 2 douzaines de pieds, 9 colonnes vertébrales, des fragments de crâne et 2 têtes entièrement disséquées. Tous les tarifs sont à retrouver sur le OnlyFans d'Alicia de Cédric Lodge. Enfin, comme je n'aimerais pas conclure ce quiz sur une histoire si horrible, je vous propose qu'on se détende avec la facette plus rieuse d'Harvard qui chaque année organise les Ig Nobel. Une sorte de contre-prix Nobel qui récompense les recherches les plus loufoques. Attention, c'est un vrai faux. En 2017, le coréen Jiwon Han a remporté le prix de la dynamique des fluides pour ses recherches montrant qu'on a plus de chances de renverser du café que du vin.
Vrai.
Faux.
Faux. Faux, parce que...
Faux, c'est l'inverse. Ah, c'est...
Non, c'est une bonne réponse de Manon, c'est vrai. Et vous savez quoi ?
À cause
de la forme du contenant, gai savoir puissance 1000 activée. Attention, top, vrai ou faux ? La même année, l'Ig Nobel de la paix a été décerné à une équipe qui a démontré que jouer régulièrement du didgeridoo permettrait d'améliorer l'état des personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil.
Vrai ? Si ? Avec les vibrations,
faux,
peut-être ?
Faux.
Les vibrations ?
Un didgeridoo qui... C'est une bonne réponse, c'est vrai.
Mais non.
Et à cette réserve près que dans un cas de l'étude, le cobaye, un certain Cyril C, non seulement n'a pas été guéri par le didgeridoo, mais s'est réveillé pour abattre la personne d'une balle dans la tête, la personne qui
Cyril
jouait
C,
du
Cyril
didgeridoo.
L, hein.
Cyril L, effectivement, ouais. Je l'appelle toujours Cyril L. Vous avez Cyril C, vous avez raison. Cyril 1, la science 0, victoire de Manon, même si elle partait de loin.
Merci.
Bravo Manon.
Harvard contre Donald Trump. Qui l'emportera ? Zoom sur ce bras de fer qui passionne l'Amérique avec l'historienne spécialiste des États-Unis, Sylvie Laurent. Sylvie, vous avez écrit récemment, je le disais, la contre-révolution californienne consacrée au lien entre l'extrême droite et les patrons de la tech. Je le disais aussi, des patrons de la Silicon Valley comme Mark Zuckerberg et Elon Musk sont passés par Harvard, mais ils ont décidé de quitter l'université. Est-ce qu'il y a un problème profond aujourd'hui entre ces patrons proches de Trump et Harvard ? Est-ce qu'il y a un ressentiment ? Qu'est-ce qu'il y a en fait ?
Alors, Elon Musk, il n'a pas quitté Harvard, il a quitté Stanford.
Ah, Stanford.
Mais Bill Gates et Mark Zuckerberg ont cru bon de quitter Harvard avant la fin de leur scolarité. Et en effet, je parle dans l'essai de cette espèce d'élément du scénario des patrons de la tech. Il n'y a rien de plus chic que de quitter, avant d'obtenir son diplôme, l'université. Peut-être parce que vous parliez des anciens d'Harvard. On peut dire, juste avant de repasser au cas de Mark Zuckerberg, que Steve Bannon a fait Harvard, que Jared Kushner a fait Harvard, que Paul Maran, qui est l'économiste en chef de l'équipe Trump, a fait Harvard, que Marco Rubio, qui est l'influenceur trumpiste le plus important aux États-Unis, a fait Harvard, etc., etc. Donc, l'idée sur laquelle c'est un bastion de gauchiste mériterait à tout le moins d'être nuancé. Quant à Mark Zuckerberg, en effet, il faut se rappeler quand même que sans Harvard, il n'y aurait pas Facebook, puisque c'est lorsqu'il était étudiant à Harvard qu'après avoir réussi à voler les photographies des étudiantes de ces différents, des différents dortoirs d'Harvard, il a mis en place un système de classement des étudiantes d'Harvard selon qu'elles étaient plus ou moins sexy, attirantes, etc. Et qu'ensuite, il est parti en Californie. Et il y a chez ces patrons de la tech, le patron de Twitter, un certain nombre de personnalités qu'on connaît aujourd'hui, cette idée selon laquelle, finalement, on apprend beaucoup mieux à coder toute la journée avec 5 autres types dans une maison où on se lave pas et on se fait livrer des pizzas que à l'université. Et cette espèce de posture anti-élitiste de l'hyper-élite, c'est quelque chose que la tech aime beaucoup raconter. Mmh. Elle aime beaucoup dire, et ça on voit ça chez Peter Thiel, qui était à Stanford dans les années 90 et qui l'écrit, qu'à l'université on apprend les humanités, qu'on apprend les textes anciens, et ça, que tout ça n'est pas
rien,
très
quoi.
Utile.
Oui.
Non, et puis par ailleurs c'est trop efféminé, on est trop dans le respect des autres cultures, et puis il y a trop de diversité, et puis il y a des gens qui sont là qui méritent pas tout à fait, parce qu'il y a eu l'affirmative action. Et je rappelle que la première victoire de Trump contre l'université d'Harvard, c'est lorsqu'en 2023, grâce au juge de la Cour suprême qui l'a nommé, les politiques d'affirmative action, c'est-à-dire de promotion de la diversité sur les campus, ont été abolies, en particulier contre Harvard, où des militants d'extrême droite ont affirmé que les étudiants asiatiques étaient discriminés. Pourquoi ? Parce que leur grande idée est de dire que ces universités, ils favorisent les femmes et les minorités, et que les hommes blancs méritants sont les
pauvres hommes blancs.
Sont les grands persécutés. Et on retrouve la même rhétorique chez Musk, qui vous parle du génocide blanc, la même chez Peter Thiel, qui aujourd'hui propose 100 000 dollars de bourse à quiconque abandonne l'université aux États-Unis pour venir faire du code. en Californie.
Super. Vous avez été chercheuse associée à Harvard. Vous gardez des liens avec vos anciens collègues. Qu'est-ce qu'ils vous racontent en ce moment ?
C'est dur. Alors, donc moi, j'étais étudiante à la fin de ma thèse en 2005, au moment où le patron d'Harvard était à l'époque Larry Summers, un économiste bien connu, ministre de l'économie de Clinton, qui déjà, à l'époque, avait dû démissionner pour avoir expliqué que les femmes étaient biologiquement moins bien prédisposées aux sciences dures que les hommes, et qui avait renvoyé le grand, il était dans mon département, théologien noir, Cornel West, pour avoir d'une part soutenu les Palestiniens, et d'autre part considéré que le rap était sujet d'études scientifiques.
Donc, c'est un cycle, c'est des thèmes qui reviennent.
Voilà, donc déjà à l'époque, défendre la Palestine était considéré comme insupportable, et c'était en 2005. Et ensuite, j'y suis retournée deux fois comme chercheuse au Centre d'études africaines-américaines, et aujourd'hui, mes collègues qui y sont s'attendent à ce que ce soit de plus en plus difficile pour eux d'expliquer qu'il y a une histoire dissidente, une histoire noire qui est une fête de refus de la norme dominante, de contestation, de révolte, d'une espèce de contre-Amérique, et c'est de plus en plus difficile, y compris pour des simples doctorants, mais y compris pour les professeurs titulaires.
Je rappelle votre livre, La contre-révolution californienne, Sylvie Laurent. France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Je vous présente Linda McMahon. Elle a 76 ans, elle est américaine et elle est, pour le moment, la ministre de l'éducation du gouvernement Trump. À 17 ans, Linda McMahon épouse Vince McMahon, futur magnat du catch, avec qui elle cofonde en 1980 la WWE, la World Wrestling Entertainment. Sous sa direction, elle passe d'une petite entreprise régionale à une multinationale cotée en bourse. Elle y occupe les postes de présidente, puis de PDG jusqu'en 2009. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se lancer en politique aux élections sénatoriales de 2010 et de 2012. Un fail, puisqu'elle perd. En 2016, elle soutient Donald Trump et finance même sa campagne à hauteur de 7 millions de dollars. L'année d'après, il la nomme administratrice de la Small Business Administration pour toutes les questions liées à la gestion des PME. Mais c'est en 2025 que la grande promotion pour Linda McMahon. Trump la nomme ministre de l'Éducation dans sa nouvelle administration. Une nomination qui ne plaît pas à tout le monde. Les syndicats d'enseignants, les défenseurs des droits civiques, des associations pour les étudiants expriment leur inquiétude concernant son manque d'expérience en éducation. Linda McMahon fait aussi l'objet d'une plainte dans le Maryland qui l'accuse d'avoir couvert des violences sexuelles lorsqu'elle était à la tête de la Fédération de catch. Mais il en faut plus pour lui faire peur. Le 3 mars 2025, elle est confirmée par le Sénat comme secrétaire à l'éducation. Deux semaines plus tard, Trump signe un décret pour démanteler le ministère de l'éducation, décret bloqué depuis par un juge fédéral. Au même moment, Linda McMahon envoie une lettre incendiaire au président de l'université de Harvard, Alan Garber, l'accusant d'une gestion désastreuse, de tolérer l'antisémitisme sur le campus et de promouvoir une idéologie de gauche radicale. Elle annonce le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions fédérales et menace de retirer le statut d'exonération fiscale de l'université. McMahon soutient évidemment toutes les décisions de son maître à penser Donald Trump, notamment les mesures qui visent à conditionner les financements fédéraux au respect de ses dérives présidentielles, l'interdiction des programmes de diversité, on en a parlé, d'équité et d'inclusion, et des politiques trans-inclusive, notamment dans le sport universitaire. Aujourd'hui, plus qu'une simple secrétaire à l'éducation, Linda McMahon incarne une volonté de transformation radicale du paysage éducatif américain, où l'idéologie conservatrice cherche à reprendre le contrôle des institutions académiques, une menace pour l'indépendance et la diversité de ces universités.
Merci Manon. Sylvie Laurent, qu'est-ce qui va se passer si Trump réussit à démanteler le ministère de l'éducation ? Ça va ressembler à quoi ?
Alors, le ministère de l'éducation nationale aux États-Unis, c'est pas la même chose que chez nous. Il a été créé en 1979, donc c'est assez récent. En fait, c'est une institution qui a pour but principal d'assurer le fait que l'égalité de traitement entre les étudiants soit assurée, que la scolarisation des étudiants et des enfants handicapés, ceux qui ont des besoins particuliers, ou que toutes les écoles reçoivent à peu près le même niveau de financement. Donc en fait, c'est une institution qui garantit l'égalité. Nommer l'ancienne patronne de la Fédération de catch américain, c'est une entreprise multimilliardaire, c'est colossal. Hein. C'est une façon de, de, de dire que d'une part, l'État doit être gouverné comme une entreprise, et que de deux, ce que Reagan, je suis désolée, c'est encore lui, avait décidé de faire, qui était d'abolir le ministère de l'Éducation nationale, sera enfin fait. Il ne peut pas forcément le faire officiellement, mais c'est lorsque, même comme lorsqu'il nomme un négateur du changement climatique à la tête du ministère de l'Environnement, vous nommez à la tête de l'Éducation nationale quelqu'un qui pense que l'Éducation nationale est une folie ou une hérésie. Donc voilà ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est la science contre... c'est Trump contre la science et Trump contre le savoir. Donc ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils influencent les programmes, ils interdisent certains cours et certaines parties de l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui, tous les cours que j'enseigne à Sciences Po, sur les questions de classe, de race, sur l'histoire d'égalité, je ne pourrais pas les faire. Plus encore, si j'étais en Floride, je serais poursuivie par les autorités.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, il a fait le Harvard français, Notre-Dame de Bétarame. Une scolarité dure, exigeante, mais aussi enrichissante. La preuve, en hommage à celui qui fut longtemps son prof principal, l'abbé Chibrard, décédé récemment dans un dramatique accident de jet-ski au large de Mykonos, Pierre a décidé de se laisser pousser la moustache. Pour l'instant, comme dirait Laurent Nunez, on ne peut parler ni d'un échec ni d'une réussite. Il faut laisser le temps au temps, même si on n'en a pas beaucoup, puisque Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Cache complète mon cuir, moustache, mon look. Aujourd'hui, on a parlé d'Harvard, la plus ancienne université des États-Unis, devenue le symbole de la résistance face aux coups de boutoir de Donald Trump. Avec nous, une invitée de choix, puisqu'elle a été chercheuse associée à Harvard, Sylvie Laurent, historienne spécialiste des États-Unis. Elle nous a expliqué que Donald Trump s'était lancé dans une campagne de reprise en main de tout le système universitaire américain. Il souhaite mettre un terme à ce qu'il appelle l'endoctrinement de gauche. Dans sa bouche, c'est le wokisme. Ça passe notamment par la fin des programmes de promotion de la diversité. Derrière ce discours, il y a surtout une guerre culturelle. La droite américaine, historiquement, estime qu'il faut en finir avec l'élitisme universitaire. Eh bien, Harvard a décidé de ne pas se laisser faire. Après quelques concessions, son président a finalement décidé de dire non à Trump, non à l'obscurantisme. Conséquence, un coup de rabot de 2 milliards de dollars de subventions fédérales et l'interdiction faite aux étrangers de venir étudier sur son campus. Un vrai coup dur pour Harvard. Mais c'est peut-être le prix à payer pour conserver son indépendance, d'autant que d'autres universités ont sciemment décidé de se soumettre au diktat de Trump, comme Columbia, l'université où Cyril dispense le cours d'où ça sort le d'où ça sort, dans l'amphi Erasmus ou Erasmus.
Erasmus, c'est vrai qu'on l'avait jamais entendu.
Ouais.
Merci beaucoup pour ce résumé.
C'est vous
qui avez dit Erasmus.
Et
deux fois.
Un petit Erasmus.
Le monsieur disait quoi?
Erasmus.
Toi, t'as répété Erasmus. Pour ne pas vexer le passant.
Pour rester fidèle.
Merci Pierre. Pour en savoir plus, il faudra payer, pas cher, 5,50€, la contre-révolution californienne, le livre très intéressant de notre invitée Sylvie Laurent. Elle, c'est le joyau hilarant de notre modeste nation. Elle dédie sa vie à nous divertir autour de sujets les plus pointus de l'actualité, parfois au prix de sa santé physique et mentale. Camille Lorente, c'est à vous.
Bonjour, et oui, j'avais pas envie d'écrire cette chronique.
Alors
je veux être en vacances, vous comprenez? Même les étudiants d'Harvard sont en vacances. On est en juin, personne ne veut plus bosser. Le mois de juin, c'est un mois de juillet qui n'a pas encore fait son coming out. Laissez-nous faire la Pride et nous dorer le fiac. Je m'en fous de Trump, je veux du rosé. Et Trump, il veut pas partir en vacances, là? Putain, mais il est milliardaire et président des États-Unis. Il peut faire littéralement ce qu'il veut, mais apparemment, ce qu'il veut, c'est faire chier. Si j'avais son pognon, je creuse une piscine, je la remplis de burrata et d'huile d'olive, mais on ne m'entend plus. Mais bien sûr, j'en ai ras le Trump. Malheureusement, l'actu ne prend pas de RTT. Hier, les frères musulmans, aujourd'hui, la politique américaine. Demain, vous allez sûrement me faire écrire sur Gaza.
Possible.
Pff, vraiment, si vous essayez de me faire plaisir, Mathieu, c'est bon, quoi. Là, je suis une femme comblée, quoi. Si la prochaine fois, le mot-clé, ça pouvait être bouillabaisse, ou je sais pas, enfin, la récolte des abricots en Ardèche. C'était mon premier taf. Ouais, j'essaie de gagner un maximum de temps. Peut-être que c'est mon master en Sciences Po qui vous a fait penser que c'était normal de me perfuser à la politique internationale, c'est ça? Ouais, moi, c'est vrai que j'ai fait de brillantes études, j'ai eu un bac mention très bien, donc oui, contrairement à Marie de Breuer, je sais que l'euthanasie n'est pas une herbe aromatique. Mais en fait, quand je vous dis que j'ai fait mes études à l'IEP de Grenoble, bon, non, mais si, on étudiait quand même l'excellence dans la pluridisciplinarité, hein, c'est la devise, ça veut dire savoir un peu rien sur tout. Voilà, c'est exactement le concept de cette émission. C'est rigolo. Mais la vérité, c'est que pendant 5 ans à Sciences Po, j'ai passé un master d'alcoolisme, d'accord? Nous arrivions bourrés à des open bars. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Je vise une thèse sur les shots enflammés. Je pourrais animer un TD sur comment vomir sans se salir, vous voyez. C'est, et, bon, anyway, non mais assez parlé de mon parcours universitaire. Bonjour Sylvie Laurent. Heureusement que vous êtes là, chercheuse associée à Harvard et Stanford, enseignante à Sciences Po, agrégée d'histoire. Ça me fait plaisir quoi, d'avoir quelqu'un de mon niveau pour discuter un petit peu. En plus, moi je suis comme vous, hein, je pense aussi que le républicanisme français a un gros impensé sur sa représentation de l'universel. Enfin, je m'avance pas trop, hein, parce que je crois qu'on a quelques divergences en ce qui concerne la préséance raciale matricielle de l'histoire américaine. On va voir. Trop avancé non plus. Écoutez, bon, je vais mettre les pieds dans le plat. Je trempe ma plume dans le vitriol. Là, je vais gratter à la surface de la bien-pensance. Voilà, je le dis haut et fort. Je n'aime pas trop Donald Trump. Voilà. Je trouve que parfois, ce qu'il fait n'est pas top top. Alors, inutile de crier à la polémique, hein, pardon, d'être clivante. Trump qui accuse Harvard d'enseigner la haine et l'imbécilité et qui nous donne une belle leçon d'amour et d'intelligence en excluant les étudiants étrangers. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux de sa part ? Je vous rappelle qu'il est Gémeaux. Voilà, on peut quand même compter sur moi pour les analyses pointues. Interdit aux étrangers d'aller à Harvard. La tuile ! J'allais y aller là. J'allais y aller, mais dans pas longtemps. Une année, ça coûte 57 000 dollars. Donc voilà, si je mets de côté l'argent des chroniques, dans quoi ? 25, 26 piges, grand max. Ah, il m'adorerait les Amerlocs. Camille, you're a amazing, il dirait comme ça, il dirait such an honor to have you. Oh là là, elle parle bien anglais en plus. Ça c'est la honte en France, hein, bien prononcer l'anglais. D'ailleurs, peut-on vraiment en vouloir à Trump d'harceler les intellos ? On bully les intellos depuis notre plus jeune âge. Alors moi, oui, j'étais brillante, mais j'ai échappé à ça parce que j'étais belle et drôle. Mais imaginez deux secondes l'adolescence de Pierre Courade. Bon. Non, attention. Par contre, bon, j'étais en gueule de bois la plupart des amphis, mais attention, je crois me souvenir que quand on commence à harceler les gens parce qu'ils pensent pas comme vous, ça s'appelle du fascisme. Voilà. Oh là là, est-ce que vous savez à quel point c'est fatigant d'être aussi intelligente. Allez, j'ai un train à prendre. Bonnes vacances à tous.
Bonnes vacances, ma chère Camille Laurenté. On vous retrouve très bientôt dans Zoom Zoom et en spectacle dès la rentrée à Aix-en-Provence. Tiens, vous restez en vacances. Au Mans et à Genève pour placer l'argent de la tournée. Toutes les infos sur votre Insta Camille Laurenté. Mais merci beaucoup, surtout Sylvie Laurent, de nous avoir raconté Harvard. Et pour aller plus loin, je rappelle encore une fois ce livre passionnant qui nous permet de comprendre les origines de la contre-révolution californienne, mieux comprendre ces entreprises de la tech aujourd'hui, pourquoi elles sont si à droite. Merci encore à vous. Zoom Zoom Zen.